Farid disait tout à l'heure, nous, on est une famille d'église, et vous et nous, on fait partie de Newground, qui, à son tour, fait partie de la grande famille Nouvelle Frontière. Et ce que je vais vous apporter ce matin, en fait, il y a 2 semaines, à peu près, je pense, octobre, il y a eu une conférence en ligne, bien entendu, qui s'appelait New Frontiers, Nouvelle Frontière Global 2020. Et cette conférence rassemblait des leaders de toutes les familles, les sphères, si vous voulez, de Nouvelle Frontière, New Ground, Catalyst, etc., etc. Et Dave Holden et Terry Virgo ont dit que cette conférence était vraiment formidable. Et une personne, en fait, en l'occurrence Mike Betts, qui dirige la famille, en anglais, Relational Mission, il a apporté une parole prophétique basée sur le voyage de Paul en Actes 27. Et cette parole est ma lecture personnelle ultérieure du chapitre, m'ont vraiment touché à tel point que ce matin, j'aimerais la partager avec vous sous forme d'une prédication. Donc, j'ai un peu développé le thème dans la parole prophétique. Et voilà. Donc, c'est parti pour un survol du chapitre 27 dans les Actes. Et d'abord, une minute de contexte. On parle de Paul. Et Paul, sachant par l'Esprit qu'il serait arrêté à Jérusalem, il fonce quand même, malgré tous les dangers, et à Jérusalem, les Juifs se posent à lui quasiment tout de suite. Les Juifs commencent à le battre et le bruit de cette émeute fait venir les troupes romaines qui emmènent Paul en prison. On regarde ici Actes 21 jusqu'à 26. Et Paul, il survit une tentative d'assassinat. Il passe au moins 2 ans en prison, d'abord à Jérusalem et puis ensuite à Césarée. Et de temps en temps, selon ces chapitres dans les Actes, il lui arrive de devoir défendre sa foi face aux accusations des Juifs et les questions des autorités romaines. Mais devant le gouverneur Porcius Festus, Paul y fait appel à l'empereur à Rome. Et par conséquent, il est envoyé en bateau avec d'autres personnes, y compris évidemment l'auteur de ce livre Actes, qui est Luc, puisque Luc utilise le pronom « nous » dans chapitre 27. Et alors, on arrive dans le chapitre et je vais survoler le chapitre en m'arrêtant de temps en temps pour essayer de vous montrer des parallèles qui existent maintenant pour nous, surtout avec la COVID. Et je pense que vous allez voir que certains sont vraiment prophétiques et là, il y a un message pour nous. Et en fait, ce chapitre 27, nous avons 44 versets sur le voyage de Paul de Césarée jusqu'à Malte, l'île de Malte. Et c'est plus que lui, Luc écrit sur même le jour de la Pentecôte, ce qui est assez impressionnant, donc ça doit être important pour Luc et du coup pour nous. Alors, ils quittent en bateau le port de Césarée, ils font escale à Sidon et puis dans une autre ville, un autre port, Myra, qui est le sud de la Turquie. Et là, ils embarquent sur un autre bateau qui va en Italie, à Rome, bien sûr. Et ils arrivent à un port qui s'appelle Beauport, en Crète, mais plus tard, dans l'automne, qu'ils n'en auraient voulu. et craignant que ce port-là ne soit le bon port pour passer l'hiver, à cause des orages, etc., il décide d'aller plus loin tout de suite, le long de la côte crétoise, pour atteindre Phoenix, un autre port, mais malgré les avertissements très clairs de Paul. Je vais lire verset 10. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Ils écoutent, mais ils s'en fichent. Parce que un vent léger du sud se lève et du coup, le capitaine, les soldats, etc., décident de reprendre la mer. Et je cite en verset 13, très important, je pense, « se croyant maître de leur projet ». Et maintenant, j'aimerais qu'on voit de manière peut-être prophétique l'Église dans ce chapitre comme le bateau et nous, vous et moi, comme l'équipage. Donc, 2019, nous pensions savoir bien naviguer, le bateau, l'Église. On savait ce qu'il fallait faire pour ce projet qui s'appelle l'Église. Nous avons, jusqu'à un certain point, peaufiné nos systèmes, nos activités, le culte de dimanche, la louange, la prédication, la prière, les groupes de vie, la jeunesse, la page Facebook, etc. et nos conférences. Bref, je dirais que nous nous croyions maîtres de notre projet. Et maintenant, verset 14. Mais ils sont à peine partis qu'une tempête violente s'abat sur eux. Et j'ai fait un peu de recherche cette semaine. Ce vent fort et froid, qui peut durer plusieurs jours, s'appelle l'uraquilon. Il souffle du nord-est en Méditerranée centrale, principalement en hiver. Il s'approche parfois de la force d'un ouragan et du coup, bien sûr, met en danger toute la navigation. Et dans l'histoire, par exemple, en 1555, il aurait provoqué ce vent uraquilon. Il aurait provoqué des vagues qui ont noyé 600 personnes dans la ville de La Valette, sur l'île de Malte. Et là, le bateau se trouve entraîné au large, très loin de la côte crétoise. Verset 15. Et l'équipage ne peut rien faire que de se laisser emporter à la dérive. Et encore peut-être des parallèles pour nous. En 2019, nos églises allaient plutôt bien, sans vraiment de problème. À Lyon, par exemple, on était plutôt content. L'église grandissait un peu. Il y avait des encouragements, un peu comme, je dirais, un léger vent du sud. Et puis, une tempête qui s'appelle la COVID, elle s'est abattue sur nous. Et suite au confinement général du 17 mars, le premier, tout le monde s'est abrité chez lui. Plus de culte en présentiel, ni de groupe de vie, ni réunion de leaders, plus de contact personnel, rien. On était tous entraîné par la tempête et on n'était plus le maître de notre projet. Alors, revenons à l'histoire racontée par Luc. Le bateau, à la dérive, toujours, passe juste au sud d'une autre île qui s'appelle Koda, maintenant Gavdos en grec, et l'équipage tire le meilleur parti de la situation très périlleuse. Et ayant déjà perdu le contrôle de leur navire, ils veulent à tout prix le reprendre. Ne serait-ce un peu, même si le bateau continue à dériver. Et en verset 16 et 17, nous voyons trois choses qu'ils font. Première chose, ils arrivent à grand-peine à hisser à bord le canot de sauvetage. Deuxième chose, ils ceinturent tout le bateau de cordage. Troisième chose, ils jettent l'ancre flottante, c'est-à-dire un gros morceau de bois ou bien une voile carrément, remorqué par le bateau pour le ralentir et pour lui permettre de rester dans l'axe du vent. Et là encore, je pense qu'il y a un parallèle pour nous. La tempête, Covid, nous a fait perdre le contrôle de notre bateau, l'Église. Mais dès que possible, nous avons essayé de le reprendre, au moins un peu, en basculant, comme aujourd'hui pour nous, tout sur Zoom, YouTube, Facebook, etc. Ils étaient, je pense, pour nous, un peu le canot de sauvetage, les cordages de secours, l'ancre flottante, pour rester si possible dans le bon sens. Ah, mais certes, mais ça a aidé, merci Seigneur. Mais nous étions toujours à la dérive. Et on continue avec l'histoire. Verset 18-19. L'ouragan ne s'arrête pas pour autant et l'équipage doit prendre des mesures radicales. Je vais lire les deux versets, 18-19. Le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de sa cargaison. Le troisième jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau à la mer. Donc des choses d'une valeur très importante sont jetées par-dessus bord. Et cela nous parle aussi, je crois. Parce que le culte du dimanche a sans doute été quelque chose de très, très, très précieux pour les églises évangéliques. Mais nous avons dû le jeter par-dessus bord, au moins dans sa forme présentielle. Ça fait mal. Certaines personnes, je parle de nous, l'église à Lyon, ne venaient plus le dimanche sur Zoom. C'était difficile. En plus, en outre, nous considérions que le culte était la bonne cargaison, la bonne marchandise. C'était en quelque sorte la meilleure chose que nous pouvions, entre guillemets bien sûr, vendre au nouveau. Et puis, on a jeté d'autres choses par-dessus bord, les agrès du bateau de l'Église, les salutations traditionnelles, vos trois bises. C'est triste. L'imposition des mains dans la prière, jetée par-dessus bord. La Sainte Cène en présentiel, ok, vous allez le faire aujourd'hui, mais dimanche prochain, ce sera à distance. Les activités pour les enfants, très difficiles. Et même le café et la tisane de bienvenue. Ce ne sont pas des choses mauvaises. Les agrès du bateau, loin de là. Et bien sûr, acceptons le café et la tisane, elles sont carrément bibliques. Mais pendant cette saison, elles ne sont plus possibles. Et Dieu reste en contrôle. Versets 20 et 21. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil, ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sain et sauf. Ni soleil, ni étoile. 6 mois sans culte en présentiel, 6 mois de Zoom, le nombre de personnes en baisse, aucune visibilité sur l'avenir. Combien de temps la pandémie va-t-elle perdurer? On ne sait pas. Et maintenant, le nouveau confinement. Et en plus, au niveau financier, au niveau économique, social, psychologique, plein de problèmes, défis partout. Pour nous, pour certains d'entre vous sans doute, quand est-ce que nous allons revoir la famille? Notre famille habite en Angleterre. Je ne sais pas. Est-ce qu'on finira par perdre tout espoir d'en sortir sain et sauf? Comme en verset 21. Et puis, dans l'histoire de ce voyage de Paul, il y a un moment, il y a un tournant décisif. Pourquoi? Parce que Dieu parle à Paul, qui, à son tour, encourage tout le monde. Et maintenant, je vais lire quelques versets à partir de 21. Je vous invite, Paul dit à l'équipage, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit, Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. Je pense que c'est vrai. On doit être honnête. Nous avions beau perdre le contrôle, Dieu reste en contrôle parfait et en paix. Il est souverain. Il est, comme on a entendu tout à l'heure, le même. Hier, aujourd'hui, Jésus est éternellement. Et en fait, Dieu, il ne veut pas du tout que nous soyons en contrôle, ni maître de notre projet. C'est son projet, son Église après tout. Jésus a dit, je bâtirai ton Église. Non, 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 non. Je bâtirai mon Église. Et au final, ce n'est ni le bateau, ni notre expérience, ni notre expertise en navigation qui nous, entre guillemets, sauvera, mais plutôt les promesses et le plan et le dessein de Dieu. Ça nous sauvera, ça nous aller plus loin, faire aller nous beaucoup plus loin. Et de même que Paul avait la promesse que lui, il devait comparaître devant César, devant l'empereur, nous avons tellement de promesses qui ne sont pas anéanties, balayées par la COVID. Jésus a dit, par exemple, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et en revenant maintenant à l'histoire, la tempête fait rage pendant au moins 14 jours. Et les matelots, les marins ne mangent rien durant ce temps-là. Paul les encourage à se nourrir, à manger, puisqu'il leur faudra vraiment de la force. Et ça, c'est très, très, très pertinent pour nous, je crois. Est-ce que pendant cette période, il n'y a pas de visibilité, mais est-ce qu'on va continuer à manger? C'est-à-dire de se délecter dans la parole et dans la présence de Dieu. Ou est-ce que vous et moi, est-ce que les gens ont un peu perdu l'appétit pour la parole, pour Jésus, le pain de vie, et pour l'eau vive de l'esprit? Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous étions dans un temps où on a vraiment besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus a dit également, si quelqu'un a soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Nous avons alors une invitation maintenant pour encourager les gens à manger. Nous, on a la même invitation de la part du Saint-Esprit. Venez, mangez, buvez. Finalement, le bateau s'échoue et le bateau est brisé par les vagues toujours très puissantes, pas loin d'une plage maltaise. Mais tout le monde, selon cette histoire racontée par Luc, 276 personnes atteignent le rivage, sains et saufs, soit à la nage ou s'agrippant aux morceaux de bois. Ce dont on a vraiment besoin de saisir, surtout en ce moment, c'est tout simplement, par la foi, un morceau de bois. Accrochons-nous à la croix et à tout ce que Jésus y a fait pour nous. On est sauvé par ce qu'il a fait. Et je pense que le morceau de bois représente quelque chose de très puissant pour nous. Toujours, pas seulement maintenant, dans cette période. Mais avec les choses prophétiques, il ne faut pas aller trop loin. Donc, il faut que je fasse attention. Je ne suis pas en train de dire que parmi tous les chrétiens du monde, il n'y aura pas de mort parmi nous à cause de la COVID. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce qui est certain, c'est que notre appel prophétique, notre appel apostolique ne subira pas de perte. On va arriver sain et sauf. Malgré toutes les épreuves actuelles, et même si la tempête COVID continue pour ce temps indéterminé, l'Église va arriver saine et sauve. Au nom de Jésus, par sa grâce. Jésus a dit, j'ai déjà cité, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Ce n'est pas possible. Et voilà, ils ne reconnaissent pas l'île de Malte. C'est un nouveau terrain pour eux. Et de même, peut-être nous n'avons pas d'idée de ce que l'avenir, le futur ressemblera. Ce sera un nouveau terrain peut-être. Et Dieu reste toujours, toujours, toujours souverain. Et puis, en tournant la page, en arrivant dans Actes 28, sur l'île, les naufragés sont là. Il pleut, il fait froid. Un grand feu alors est allumé pour les naufragés. Et Paul est mordu par un serpent. Alors qu'il ramasse du bois pour le feu, mais il jette le serpent dans le feu, sans subir aucun mal. Et vu que la Bible présente le serpent, très souvent, comme l'image de Satan, Paul montre ici que lui, il a l'autorité sur le diable. Et puis, Paul et les autres sont hébergés chez qui? Chez le premier ministre de l'île, dont le père est malade de la fièvre et de la dysenterie. Et pour la nouvelle se répand à travers l'île et par conséquent, ils apportent tous leurs malades qui sont guéris eux aussi. Et Paul et ses compagnons, verset 10, reçoivent tout ce qu'il leur faut pour la continuation de leur voyage vers Rome. Et bien sûr, il est inconcevable que Paul, Luc, Aristarque et compagnie ne prêchent pas l'évangile pendant et suite à ces événements. Et encore des parallèles pour nous. Il y aura une fin de cette tempête. Alléluia. On a justement prié pour un vaccin, etc. Absolument. Il y aura une fin, un jour. Et là, nous verrons d'une manière nouvelle au moins deux choses, selon ce passage, si on le prend comme une chose prophétique. première chose, de nouveau, des victoires sur les œuvres du diable, surtout, je crois, dans la délivrance et dans la guérison. Et deuxième chose, une nouvelle faveur nous sera accordée chez certaines autorités, ce qui nous ouvrira plus de portes pour la proclamation de l'Évangile. Notre appel, Dieu, il est souverain. Et j'aimerais conclure juste en me posant, vous posant la question, mais comment alors répondre à cette histoire aujourd'hui? Bah, c'est évident, la persévérance. Nous ne savons pas combien de temps encore la COVID, la tempête, fera rage. Donc, continuons à manger et à boire pendant ce temps. Peut-être nous avons aussi besoin d'avoir une prédisposition à abandonner, que ce soit de façon permanente ou pour un temps, les manières et les choses auxquelles nous sommes habitués. Peut-être, oui. Accrochons-nous aux promesses de Dieu. Tenons ferme. Gardons vraiment le cap avec les promesses de Dieu. Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la proclamation. Ça va continuer. Pendant la tempête, comme a fait Paul à l'équipage. Alors, 276 personnes sur le bateau, dont Paul, Luc, Aristarque, peut-être d'autres chrétiens, on ne sait pas combien. Et on ne sait pas, mais je me pose la question, combien de personnes dans cette compagnie sont devenues chrétiens grâce ou suite à la proclamation de l'Évangile par Paul et ses amis? Donc maintenant, pendant le temps de la COVID, proclamons l'Évangile. Et à la fin de la tempête aussi, proclamons l'Évangile, quel que soit l'état de notre bateau à ce moment-là. Et croyons vraiment ensemble que Dieu fera des choses merveilleuses. La guérison, la délivrance, au nom de Jésus, Dieu reste en contrôle. Voilà, moi, je m'arrête là. J'aimerais tout simplement prier pour vous en tant qu'église locale. Et puis, je peux repasser la parole à Farid pour la Sainte Cène, etc. Seigneur, merci pour la Bible que nous avons. Merci pour toutes les histoires dans ce livre magnifique. Merci pour cette histoire du voyage de Paul. Je prie, Seigneur, que tu nous encourages à travers cette histoire et que tu nous mettes ta main sur nos vies. Je prie, Seigneur, que nous tous, nous puissions vraiment manger et boire la parole, la présence de Dieu, les eaux vives pendant ce temps. Remplis-nous du Saint-Esprit. Que nous ne soyons pas comme l'équipage qui ne mange pas pendant 14 jours. On a besoin. Seigneur, même s'il n'y a pas de soleil ni étoile, je prie que nous puissions te voir. La lumière véritable qui est Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi. Et merci pour tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. Et merci à vous tous d'avoir écouté.